Les roses éclats.
Cette conférence a été organisée le 24 mai 2023 par la Congrégation des Sacrés-Cœurs avec son groupe d'étudiants jeunes professionnels Réseau Picpus. Elle est le second événement de ce genre en lien avec la béatification de quatre pères de la Congrégation le 22 avril précédent. Elle réunit le thème du martyr des bienheureux en 1871 sous la commune à celui de Réseau Picpus qui est cette année « Fais-toi une place dans ce monde, poursuis la paix, recherche-la ». Le thème du martyr semble nous échapper dans la culture contemporaine. On en fait un synonyme de souffrance ou on le relie à une cause de façon politique. Les images que nous en avons sont souvent lointaines, ne semblent pas nous interpeller directement et encore moins avoir de rapport avec notre vie. Mais en découvrant le fond de ce sujet, nous pourrons peut-être changer aussi bien nos vies que notre regard. Et voir de quelle façon cette question du martyr nous aide aussi, nous, à notre niveau, à répondre à cette problématique de la paix. C'est Anne Bernet, écrivain, historienne et journaliste que nous remercions chaleureusement, qui nous présente ce beau thème, le martyr, composante de la vie chrétienne, hier, aujourd'hui, demain.
L'activité de la béatification des martyrs de la commune, parler plus généralement du martyr. Vous le disiez à l'instant, mon frère, martyr est un mot qu'on a un peu galvaudé, qu'on a rattaché à une foule de choses, à des engagements politiques, à des attitudes qui n'ont strictement rien à voir avec le martyr tel que le christianisme le conçoit. En réalité, le martyr fait partie intégrante, quasiment depuis l'origine, même vraiment depuis l'origine, de la vie chrétienne. Il en est même totalement indissociable. C'est une vérité qui, même si c'est une pensée qui ne nous fait pas fatalement plaisir, c'est une vérité qui nous concerne tous, parce que le martyr peut survenir à n'importe quel moment, dans n'importe quelle société. Je trouve particulièrement frappant dans l'histoire des martyrs de Picpus qu'il s'agissait, mais il faudrait adjoindre ce père des missions étrangères qui ne fait pas partie des béatifiés, qu'ils avaient renoncé les uns et les autres à la vie missionnaire. Ce père des missions étrangères qui était allé jusqu'en Chine y avait passé 30 ans. Il n'y avait pas trouvé le martyr et tous ont trouvé l'occasion de témoigner du Christ en plein Paris en 1871, dans une époque qui, quelques mois plus tôt, paraissait le comble de la tranquillité bourgeoise. Oui, le martyr est une réalité du christianisme qui peut surgir n'importe où, n'importe quand. Je dis une spécificité du christianisme parce que dans les autres religions, il est pratiquement inconcevable. Dans l'Antiquité, on ne meurt pas pour les dieux. On leur offre des sacrifices sanglants. On tue en leur nom des animaux en très grand nombre, parfois des humains. Mais personne, absolument personne, n'aurait l'idée saugrenue d'aller mourir pour les divinités païennes, et ce pour une raison très simple, c'est que l'on est avec elles dans une logique du donnant-donnant. Cette logique du donnant-donnant, eh bien, elle est purement commerciale. On ne va pas sacrifier sa vie pour des divinités qui ne vous la rendront pas. Par conséquent, on ne meurt pas pour les dieux païens, et cette idée semble même invraisemblable. On ne meurt pas pour les dieux païens parce qu'on ne les aime pas. Dans le paganisme, il n'y a pas de lien d'amour et de charité entre le croyant et la divinité, entre la divinité et le croyant. Ajoutez à cela que dans le paganisme et même dans le judaïsme antique, avant la rédemption, eh bien, l'au-delà n'est pas désirable. Ce sont les enfers païens où il ne fait pas bon descendre Si vous avez lu l'Odyssée, vous vous souvenez des gémissements d'Achille qui avait choisi de mourir jeune et glorieusement et qui dit à Ulysse « Je préférerais être le dernier des porchés dans la maison de mon père et profiter encore de la merveilleuse lumière du soleil. » On ne meurt pas pour les dieux et on ne souhaite pas l'éternité de la mort parce qu'elle est tout ce que l'on veut, sauf plaisante. Accepter de mourir pour son Dieu est incompréhensible pour les païens. D'ailleurs, ce sera pour eux un véritable scandale. Certes, le judaïsme connaît quelque chose qui se rapproche du martyr. Pensez aux enfants dans la fournaise, au cantique des enfants dans la fournaise. Pensez aux Maccabées qui se soulèvent contre Antiochos de Syrie, qui prétend les contraindre à abjurer la loi de Moïse. Mais, à la rigueur, cette attitude-là peut être admise par le paganisme, car il s'agit somme toute d'une forme d'héroïsme militaire tout à fait compréhensible pour les mentalités de l'époque. Avec le christianisme, c'est un phénomène nouveau qui se produit. La vérité surgit dans le monde et ceux qui lui appartiennent préfèrent pacifiquement cette vérité à leur propre vie. C'est pour les païens scandale, folie. Pline le Jeune, dans une de ses lettres à l'empereur Trajan, parlera d'obstination coupable. Une obstination coupable de la part des chrétiens que la société ne saurait tolérer. N'est-ce pas ce que le Christ avait annoncé ? Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Mais comme vous n'êtes pas du monde, le monde vous hait. Cette réalité traversera l'histoire jusqu'à la fin des temps. Étrange façon, au demeurant, de la part de Jésus, de se gagner des adeptes en avertissant dès le début de ses enseignements ses disciples qu'en le suivant, il s'expose à la prison et au supplice. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront au Sanhédrin, ils vous flagelleront dans les synagogues. Vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, afin de rendre témoignage en face d'eux et des gentils. Mais lorsqu'on vous livrera, ne vous demandez pas avec anxiété comment parler et que leur dire, car ce que vous aurez à dire vous sera donné d'en haut, sur le moment, puisque ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura tenu jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Ne craignez rien de ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Qui voudra sauver sa vie, la perdra. Qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Cet avertissement est donné afin que les disciples ne soient pas surpris quand ces choses arriveront. Mais il fonde l'attitude chrétienne face aux persécuteurs, une attitude qui ne deviendra vivable qu'après que les mérites de la passion du Christ se soient fait sentir et que les grâces de l'Esprit Saint permettent à ce programme d'être accepté et vécu. Ce que prouve d'ailleurs, en cette veille de la Pentecôte, le retournement des apôtres qui, en fuite le soir du Vendredi Saint, témoigneront en plein jour après l'effusion de l'Esprit. J'en reviens à ce mot essentiel, témoigner, témoignage. C'est le mot-clé. Martyr, martyros en grec, ne signifie strictement rien d'autre. Un martyr est un témoin au sens judiciaire, juridique, du terme. Si le Christ est venu dans le monde afin de rendre témoignage à la vérité, et qu'il a consommé ce témoignage sur la croix, ses fidèles doivent à leur tour témoigner, si nécessaire jusqu'à la mort, de leur foi et de leur espérance. C'est précisément parce qu'ils acceptent de mourir pour la vérité que devient crédible l'histoire qu'ils racontent. N'est-ce pas ce que dit Blaise Pascal lorsqu'il proclame « Je crois les témoins qui se font égorger ». La foi chrétienne repose entièrement sur ce témoignage apostolique primitif donné par des hommes qui ont scellé leur enseignement dans leur sang. Car la bonne nouvelle ne cessera jamais de déranger le monde et son prince, de sorte que de siècle en siècle, ils s'acharneront à la réduire au silence, quitte à en tuer les messagers. Accepter de mourir pour rendre témoignage à la vérité implique, de la part du martyr, une relation assez intime, assez profonde avec le ressuscité et une foi assez ardente en sa parole pour accepter de mourir pour lui. À la différence du héros païen, le martyr chrétien ne meurt pas par gloriole, mais par amour. La plus grande preuve d'amour étant de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le héros païen, le héros antique et le martyr ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Le martyr ne cherche pas à entrer dans l'histoire et à rester glorieusement dans les mémoires, mais à prouver son amour envers le Christ et Dieu, à se mériter le ciel et à convertir son prochain. La lapidation d'Étienne à Jérusalem vers l'an 35 est en cela fondatrice. En professant la résurrection et la divinité du crucifié, le diacre Étienne blasphème aux yeux du Sanhédrin, comme son maître avait blasphémé aux yeux du Sanhédrin. Et à ce titre, il mérite, comme lui, de mourir dans les supplices. Ainsi, la profession de foi interdite mène au témoignage sanglant, mais la mort d'Étienne, le proto-martyr, le premier des témoins, va se révéler incroyablement féconde, puisqu'elle entraînera la conversion d'un des meurtriers, Saoul de Tarse, qui, devenu Paul, portera à travers le monde le message qu'à l'origine il voulait éradiquer. Les apôtres, à l'exception de Saint Jean, donneront tous ce témoignage sanglant, comme le donneront en 64 les fidèles de la communauté chrétienne de Rome qui périront dans les supplices pour témoigner de leur foi. Vous savez d'ailleurs que ces martyrs de Néron sont condamnés non pas pour leur appartenance au christianisme, mais pour appartenance à une secte interdite, inconnue, accusée d'avoir provoqué l'incendie de Rome, ce qui entraînera une législation lapidaire. Christianum esse non licet, dit le texte latin, il n'est pas permis d'être chrétien. Cette législation restera en application pendant 3 siècles, même si parfois une certaine tolérance sera observée vis-à-vis des fidèles. Il n'est pas permis d'être chrétien. Être chrétien mérite la mort. Bientôt ne sera même plus la raison de cette interdiction, mais la loi demeurera appliquée dans toute sa férocité. Une certaine théologie du martyr ne va pas tarder à apparaître, dont nous avons la première preuve écrite à travers les lettres que l'évêque d'Antioche, Ignace, envoyait à Rome afin d'y subir la mort, écrit en 107 tant à ses fidèles de Syrie qu'à ceux de Rome qui voudraient intercéder en sa faveur. Ces lettres, il les écrit en qualité de prisonnier de Jésus-Christ. Et que dit ? Que dit Ignace ? Que la mort du martyr, si cruelle soit-elle en apparence, est préférable à la vie de ce monde, puisqu'elle donne Dieu. L'autel est prêt. Laissez-moi m'immoler. Laissez-moi devenir la nourriture des bêtes par lesquelles il me sera donné de jouir de Dieu. Laissez-moi broyer sur leur croc afin que je devienne le froment de Dieu. Si je souffre, je deviendrai l'affranchi du Christ Jésus et je renaîtrai libre. Laissez-moi être l'imitateur de la passion de mon Dieu. Notez cette dernière formule, l'imitateur de la passion de mon Dieu. Le martyr est l'identification parfaite du témoin à la victime par excellence, le Christ. On va même plus loin lorsque l'un des premiers théologiens chrétiens, Clément d'Alexandrie, fondateur du Didascalée, la première université chrétienne, écrit dans son texte des Stromates, le martyr ne vend pas sa foi dans l'espérance de la couronne qui lui est destinée. C'est uniquement par amour pour Dieu qu'il sort de cette vie la joie au cœur et sur les lèvres une action de grâce en faveur de celui qui lui a donné motif à prendre son envol vers le ciel, en faveur de celui qui a tramé une machination contre sa vie. Il remercie l'un et l'autre de lui avoir offert ce qu'il n'aurait pas recherché spontanément. Ce qu'il n'aurait pas recherché spontanément, car aller volontairement au devant du martyr est une faute. Le Christ lui-même l'a dit aux disciples, « Si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. » Il ne faut pas, en effet, aller au devant du martyr au risque que Dieu n'accorde pas son soutien et son aide, et afin d'épargner aux persécuteurs une faute, un péché inutile. L'Église prend donc le contre-pied de la position défendue au milieu du IIe siècle en Orient par l'hérétique Montanus, qui prône, lui, une rupture absolue des fidèles avec le monde païen corrompu, le meilleur moyen étant de courir au martyr, littéralement comme au suicide, en se dénonçant spontanément aux autorités, comme chrétien. C'est une attitude en rupture avec l'Évangile, et qui d'ailleurs va plonger les autorités païennes dans la stupeur. Le préfet de Syrie ne va-t-il pas déclarer à ces gens qui affluent à son tribunal pour se dénoncer eux-mêmes, « Mais si vous avez tellement envie de mourir, est-ce que vous n'avez pas des cordes et des précipices ?» Confronté à des persécutions qui vont se généraliser toujours davantage, les évêques et les papes vont chercher un juste milieu entre la prudence, qui relève aussi de la charité, car comme je le disais à l'instant, braver inutilement la mort revient à faire porter aux persécuteurs un péché qu'il était loisible de leur épargner, et une attitude qui pourrait être assimilée à de la lâcheté. C'est une ligne de crête difficile à soutenir. Dans les années 250, Saint Cyprien, évêque de Carthage, patriarche d'Afrique, se sachant indispensable aux communautés, d'autant plus indispensable que le pape Fabien est mort au tout début de la persécution en janvier 250, Saint Cyprien va donc choisir de se cacher et on le lui reprochera comme une forme de couardise, ce qui le poussera d'ailleurs 10 ans plus tard à accepter le martyr pour justement être lavé de ses soupçons. Telle est la position constante de l'Église, ne jamais chercher le martyre, mais ne jamais non plus le fuir si l'attitude pouvait prêter à confusion, scandaliser ceux qui y verraient un manque de foi, ou plus encore inciter les faibles à l'apostasie. L'apostasie, c'est un maître mot dans toute l'histoire du martyr. Ce sera bientôt la volonté constante de tous les persécuteurs qui estimeront finalement plus satisfaisant de conduire les chrétiens à renier leur Dieu que les tuer. C'est une tentation réelle quand on vous offre la vie sauve de se demander si décidément le ciel mérite de mourir pour lui. Il y a une remarque que je trouve particulièrement touchante en mai 1794, lorsque Madame Élisabeth, dont la cause de béatification est ouverte depuis quelques années, nous avons la chance d'avoir son postulateur parmi nous, lorsque Madame Élisabeth dit à ceux qui l'entourent à l'instant de monter à l'échafaud, « Réjouissez-vous, car on ne nous demande même pas, comme aux premiers chrétiens, d'apostasier notre foi, de préférer cette vie toujours menacée de finir à la vie éternelle. » Oui, l'apostasie d'un chrétien est infiniment plus agréable aux méchants que sa mort. D'ailleurs, on ne reculera devant rien, non pas seulement dans l'Antiquité, non pas seulement sous la Révolution, mais jusqu'à nos jours. Pensez en 1923 au jeune martyr de la Cristiada, José Luis del Rio, un enfant de 14 ans, que l'on va torturer pour essayer de le faire abjurer, et qui, malgré des supplices proprement abominables, tiendra jusqu'au bout. Pensez tout récemment encore aux martyrs de l'islam auxquels on a proposé la vie sauve s'ils acceptaient de prononcer la shahada, la profession de foi islamique. Un chrétien qui abjure est une victoire pour les forces du mal. Un chrétien qui tient bon est une victoire pour Dieu. N'est-ce pas ce que Tertullien, à l'aube du IIIe siècle, assène non seulement aux fidèles mais aux autorités romaines, le sang des martyrs et semences de chrétiens. C'est d'ailleurs une simple constatation, car sans cela, dès les commencements, l'Église eût disparu, les conversions étant empêchées par la terreur. Or, le résultat obtenu par les persécuteurs fut exactement contraire à celui qu'ils recherchaient, car un chrétien supplicié entraînait systématiquement au moins 10 baptêmes, de sorte que l'Église se retrouvait constamment revivifiée par leur exemple et les grâces accordées. Vrai au premier temps du christianisme, cette vérité perdure. Ainsi, pendant près de 3 siècles, l'Empire romain tentera en vain d'éradiquer cette religion nouvelle, perçue comme un facteur de déstabilisation de la société, véritablement perçue comme un facteur de déstabilisation. L'historien Daniel Robbs avait une formule heureuse quand il parlait de révolution de la croix. Car l'Évangile, en effet, va mettre sans dessus-dessous tout le système sur lequel reposait l'Empire, et les souverains politiquement les plus conscients que furent Marc Aurèle, Septime Sévère, Dèce ou Dioclétien le savaient, d'où leur acharnement à essayer d'éradiquer le christianisme. L'Évangile semblera toujours à l'État et aux politiques, ce à travers tous les siècles, une menace pour l'ordre établi. La publication de l'édit de Milan par Constantin en 313 va mettre un terme aux persécutions au sein de l'Empire, mais nullement, comme certains chrétiens particulièrement ardents le croiront avec regret aux chances de martyrs. En fait, et c'est une vérité dont nous devrions tous être pénétrés, rien ne sera jamais plus fragile dans une société non christianisée ou déchristianisée comme la nôtre que la tolérance accordée aux chrétiens, et jamais, nulle part, en aucune époque, les baptisés ne pourront se prétendre totalement à l'abri du martyr qui demeurera le risque auquel ils accepteront ou non de se soumettre et de se préparer. Cette certitude qui peut effectivement apparaître déplaisante eût au contraire réjoui nos pères dans la foi qui, dans leur exigeante conception de la sainteté, voyaient dans le témoignage sanglant la meilleure garantie du salut, voire peut-être même l'unique moyen de se sauver. Qu'ils se rassurent, les occasions de mourir pour le Christ ne manqueront jamais. À peine Rome passée au christianisme, c'est l'Empire perse qui, pendant 3 siècles, s'était montré extrêmement accueillant aux chrétiens, car ils étaient victimes de l'intolérance de l'ennemi héréditaire que représentait Rome. L'Empire perse se mue brusquement en persécuteur, précisément parce que la conversion de Constantin fait des fidèles du Christ dans l'Empire oriental une éventuelle 5e colonne. On parle très peu de ces martyrs perses, mais ils furent nombreux pendant des siècles et ils périrent eux aussi dans des conditions tragiques. Puis, alors que s'effondre l'Empire romain, les barbares vont déferler sur l'Asie mineure et sur l'Europe à compter de la fin du IVe siècle. Beaucoup d'entre eux, qui sont des hérétiques ariens, massacreront le clergé catholique uniquement par haine de l'Église et par refus de la divinité du Christ, puisque les Ariens nient que Jésus soit véritablement le Fils de Dieu. Ceux-là sont chrétiens, viendront après de véritables païens, les Vikings par exemple, qui s'acharneront avec une rare cruauté sur les grands monastères celtiques d'Irlande, d'Écosse, mais également sur tous ceux qu'ils rencontreront sur leur chemin quand ils s'en prendront au territoire franc. Puis, c'est l'islam à son tour, à partir du 8e siècle, qui se fait persécuteur, même s'il recherche la conversion des infidèles plutôt que leur anéantissement. Désormais, et pour très longtemps, les terres musulmanes vont apparaître aux plus fervents comme la meilleure opportunité d'aller mourir pour le Christ. N'est-ce pas ce que vont tenter, à quelques années d'intervalle, saint François d'Assise ou saint Antoine de Padoue? Saint Antoine qui essaiera de se rendre au Maroc, saint François qui débarquera en Égypte et tentera d'aller prêcher l'évangile au sultan. Un sultan d'ailleurs tolérant, qui, touché par ce petit frère, et pensant qu'il a affaire à un doux illuminé, dont l'islam ne s'en prend jamais au fou, le fera très aimablement raccompagner à un navire en lui disant de rentrer chez lui, ce qui sera pour François une très grande déception. Pour Antoine aussi. Quelques franciscains auront plus de chance que leur père et ils finiront par trouver au Maroc une mort glorieuse. À l'époque d'ailleurs, la question va se poser à Rome de savoir si l'attitude des franciscains est ou non conforme à la position de l'Église. Est-il légitime ou non de prendre le risque d'une mort violente par amour du Christ et pour le salut des âmes? C'est une question clé dès l'origine de l'évangélisation. Elle s'est déjà posée lorsqu'en 204, Septime Sévère publie un édit qui s'il tolère les églises préexistantes et les chrétiens déjà baptisés, interdit, pour employer ces termes, que l'on fasse de nouveaux chrétiens. Interdisant donc de prêcher, de baptiser, de convertir. Mais ce que Septime ne comprend pas, c'est que ce faisant, il ne laisse pas le choix aux vrais chrétiens, car leur mission, telle que le Christ la leur a donnée, est d'aller dans le monde entier et de tous les peuples de faire des disciples. L'Église n'existe que si elle prêche la bonne nouvelle, que si elle fait des chrétiens. Saint Martin, au IVe siècle, le sait bien, lorsqu'il entreprend d'évangéliser des campagnes gauloises encore très largement païennes et prend le risque, parfois de manière insensée, de prouver la puissance du Christ. Souvenez-vous de cet épisode. Vous savez que les Gaulois, comme tous les peuples celtes, n'ont pas de temple. Ils vénèrent en pleine nature des sources, des arbres. Et un jour, dans un village de Touraine, Martin prétend faire abattre un arbre sacré. Le chef du village lui dit « Si ton Christ est tellement fort, tu vas m'en donner la preuve, tu vas te mettre l'arbre, je vais moi-même abattre l'arbre, et si ton Christ est tellement fort, le chêne ne te tombera pas dessus, il ne t'écrasera pas. » Martin va relever le défi, il va se placer exactement à l'endroit où l'arbre doit tomber. Le chef du village abat le chêne, il s'incline dans la direction dans laquelle normalement il doit tomber. Il penche de plus en plus, il va écraser Martin qui fait un signe de croix. À la stupeur générale, le chêne se redresse et tombe dans l'autre sens. Il est légitime de s'exposer aux martyrs pour le salut des âmes et leur conversion. Le persécuteur peut être païen, il peut être hérétique. J'évoquais tout à l'heure ces Ariens qui, tels les Visigoths ou les Lombards, se sont acharnés pendant des siècles, particulièrement sur les religieux et religieuses catholiques, mais il y en aura d'autres à travers les siècles. Il y aura les Cathares. Nous commémorons en ce mois de mai le massacre des Dominicains d'Avignonnet qui furent tués pour avoir voulu prêcher la saine doctrine dans le sud-ouest. Il y a les protestants. Je voudrais rappeler un épisode dont on parle extrêmement rarement, qui s'est produit en juillet 1572, soit simplement quelques semaines avant la Saint-Barthélemy. Tout le monde connaît le tragique épisode de la Saint-Barthélemy, dont nous n'avons d'ailleurs aucune raison de nous glorifier. Mais il est utile de le resituer dans son contexte. Ce contexte qui est l'épouvantable sauvagerie avec laquelle les protestants, de leur côté, ont été capables de s'en prendre aux catholiques, telles les atrocités commises le 9 juillet 1572 aux Pays-Bas, dans la ville de La Brille, par les gueux du comte de la Marque, qui vont massacrer dans des conditions particulièrement horribles, avec des cruautés indicibles, tout un groupe de prêtres et de religieux qui étaient là en otage pour pouvoir négocier avec les autorités espagnoles et qui seront lentement pendus et dépendus dans une grange de la ville, l'agonie de certains durant près de 4 heures. Après avoir été torturés avec des raffinements d'imagination et dont les corps seront finalement dépecés pour être vendus au marché de la ville sous l'appellation de viande de moine. Quand on se souvient, je précise qu'il se trouva des acheteurs, quand on se souvient de cet épisode, on comprend mieux, étant donné que la nouvelle s'en répandit très vite, on comprend mieux la fureur de certains catholiques parisiens le 24 août 1572. Oui, le frère dans la foi, dès lors que des querelles de doctrine opposent les chrétiens entre eux, le frère dans la foi peut devenir le bourreau de son frère. Cette passage d'une partie de l'Europe à la réforme va être compensé à la même époque par l'ouverture de nouveaux terrains d'évangélisation, l'Asie et surtout les Amériques. Si certains religieux continuent à tenter de s'introduire en terre d'islam, à partir du XVIe siècle, les missions n'auront plus comme but que d'aller faire de nouveaux chrétiens au bout du monde, là où l'Évangile n'a encore jamais été prêché. L'Église va donc s'ouvrir devant elle un immense chantier qui, au XIXe siècle, s'étendra à l'Afrique noire, puis à l'Océanie. Des congrégations, des ordres entiers vont se vouer à cette évangélisation. Ce seront les dominicains, les cordeliers, qui sont une branche des franciscains, les jésuites, les prêtres des missions étrangères de Paris, qui se spécialiseront dans l'évangélisation de l'Extrême-Orient. Puis, au XIXe siècle, les maristes et les pères de Picpus, tous, et bien d'autres, car on peut les citer tous, paieront d'un impressionnant cortège de martyrs la conversion, souvent fragile et incomplète, de ces nations. Au sang des évangélisateurs se mêlera partout celui des convertis. Il y aura entre autres ces martyrs du Japon. Il faut imaginer que l'évangélisation du Japon au milieu du XVIe siècle jusqu'au début du XVIIe sera si prometteuse. Les conversions se multiplieront à une telle vitesse qu'à Rome, on définira le Japon comme le florissant jardin de Dieu en Asie. Ce florissant jardin de Dieu qui pouvait laisser espérer une conversion de l'archipel nippon tout entier et de ses autorités se finira dans un bain de sang lorsque certaines puissances protestantes laisseront entendre au Mikado que les prêtres catholiques ne sont là que pour coloniser le pays. Des martyrs, il y en aura au Canada, avec les jésuites torturés à mort par les Iroquois. Il faut songer que certains d'entre eux, ayant réchappé une première fois à ces supplices, y retourneront en sachant exactement ce qui les attendait. Il y aura le Vietnam, il y aura la Corée, il y aura l'Océanie avec, par exemple, le père Pierre Chanel. Et puis, il y aura tous ceux qui ne sont pas à proprement parler morts martyrs, car ils ne furent pas suppliciés au sens exact du terme, mais qui sont morts à la tâche pour le salut des âmes. Il faut songer que l'espérance de vie d'un jeune prêtre européen en Extrême-Orient au XIXe siècle, entre les maladies tropicales, la vie clandestine, l'épuisement de ce travail et les risques de martyr, étaient de 5 ans maximum. Si l'on songe au nombre d'années d'études qu'il fallait pour former ces jeunes gens, leur enseigner des langues orientales extrêmement difficiles, la maîtrise du vietnamien ou du chinois ou du coréen ne se fait pas en quelques jours, l'on mesure la somme des sacrifices consentis. Mourir à la tâche est-il un martyr? Faut-il penser que ces jeunes prêtres sont morts martyrs? Puis il y a tous les autres aussi qui n'ont même pas eu la chance d'arriver jusqu'au terrain d'évangélisation. Ceux qui vont périr en mer parce que ces immenses, ces interminables voyages vers l'Amérique, vers l'Asie, plus encore vers l'Océanie, qui prennent parfois, l'Océanie c'était 9, 10, 11 mois, parfois davantage, pour arriver là-bas. Certains n'y arriveront pas, ils vont mourir en mer de fièvre et d'épidémie. D'autres vont sombrer, on ne saura jamais ce qu'ils sont devenus. Eux aussi, d'une certaine manière, sont des martyrs. Oui, l'évangélisation se paye au prix fort. L'Église, depuis ses commencements, considère que le martyr n'est pas fatalement le martyr du sang. On a parlé de martyr de la charité. C'est le cas, notamment depuis les origines, de certains chrétiens morts en soignant des malades, qui vont contacter la peste ou une autre maladie à leur chevet, et qui vont en mourir. On a parlé également, dès les commencements, de martyr de la pureté, qui préféraient la mort à la perte de leur virginité. L'Église connaît d'autres formes de martyrs. Mais, cependant, le critère fondamental définissant le martyr demeure le fait d'être tué in adium fidei, en haine de la foi. Faut-il aller loin pour trouver le martyr ? Dans le passé, on a déjà vu que non, on le verra à nouveau. En France, la Révolution va multiplier les martyrs. Il y en aura ailleurs aussi, je pense notamment à ces trappistes italiens massacrés par les troupes françaises en 1797 en voulant défendre l'Eucharistie que les soldats révolutionnaires voulaient profaner. Et là se pose une nouvelle question. Oh, pas si nouvelle d'ailleurs, parce que on pouvait déjà se la poser au moment de la réforme, et même au moment des persécutions ariennes. Ceux qui vont périr pendant la Révolution, sont-ils victimes du contexte politique ou sont-ils véritablement immolés en tant que chrétiens ? C'est une question si fondamentale que l'une des carmélites de Compiègne, guillotinée, place de la nation, place du trône renversé, disait-on à l'époque, le 17 juillet 1794, et ces carmélites de Compiègne qui reposent dans l'enclos ici, sœur Marie-Henriette va oser apostropher le président du tribunal révolutionnaire, Fouquier-Tinville, en lui demandant qu'il ait la bonté de préciser ce qu'il entend par le crime de fanatisme dont les carmélites sont accusés. Fouquier-Tinville lui répond « Votre attachement à vos sottes croyances. » Sœur Marie-Henriette se retourne vers ses compagnes. « Ah, mes sœurs, quel bonheur! Nous mourons pour la foi. » Ce qui leur garantit, ou presque, la gloire des autels. Je dis « ou presque », car bientôt, en raison de considérations politiques, l'Église de la Restauration se montrera étrangement réservée concernant les causes de béatification. Je pense qu'il n'y a pas un seul diocèse de France qui n'ait eu sous la terreur, et même après, plusieurs dizaines de martyrs absolument incontestables, ces chiffres prenant des proportions énormes, particulièrement dans les provinces de l'Ouest. Eh bien, très peu de diocèses ont finalement ouvert ces causes de béatification. Pour des raisons honorables d'ailleurs, car c'est parfois simplement pour ne pas raviver les haines, maintenir la paix civile et ne pas blesser les familles des persécuteurs qui sont évidemment innocentes des fautes de leur père. Dès lors, il y a finalement assez peu de causes qui vont aboutir. Il y a celle des martyrs de septembre, Paris en septembre 1792, il y a celle des 14 prêtres martyrs de Laval, il y a quelques prêtres et religieuses, ceux de Cambrai, ceux d'Orange, et quelques autres. Mais vous constaterez que ces causes de béatification n'ont quasiment jamais été suivies par des canonisations. La seule recensée à ce jour, quasiment une divine surprise, est celle du frère Salomon le Clerc, frère des écoles chrétiennes, qui a commis un miracle, parce que ce fut moyennement apprécié par les autorités françaises, qui a commis un miracle en Amérique du Sud en sauvant une petite fille mordue par un serpent et dont la vie était très gravement en danger. La canonisation du frère Salomon le Clerc, qui, à l'heure qu'il est, reste unique dans son genre, seul martyr de la Révolution canonisé, a posé d'énormes problèmes politiques, à tel point que le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'était il y a 6 ou 7 ans, ne s'est pas rendu à Rome pour la canonisation. C'est vrai, au demeurant, de bien des états qui se tiennent pour les successeurs des persécuteurs, qu'il s'agisse du Mexique et des martyrs de la Cristiada, de l'Espagne, des victimes de la guerre civile, de l'Italie ou du Vietnam, qui compte un certain nombre de prêtres et de séminaristes massacrés par les communistes. Et ce fut vrai il y a 50 ans du diocèse de Paris, où, pour ne pas désespérer Billancourt, selon une formule célèbre, le cardinal Marty préféra mettre de côté les causes des martyrs de la Commune. Ces martyrs de la Commune, dont 5 seulement ont été béatifiés au mois de mars, quand tous les autres méritaient tout autant de l'être, qu'il s'agisse des dominicains d'Arcueil, tirés comme des lapins à la sortie du tribunal improvisé devant lequel ils venaient de comparaître, qu'il s'agisse des jésuites et des prêtres massacrés en compagnie des martyrs béatifiés, dans des conditions non moins atroces. Et je pense plus particulièrement à ce jeune séminariste qui n'aurait d'ailleurs jamais dû se trouver là, car, comme l'avait fait remarquer Monseigneur Darbois, pourquoi avoir arrêté ce garçon qui n'a même pas reçu les ordres mineurs, ce jeune abbé Seigneuret, qui fut victime de la violence d'un certain nombre de communards alors qu'il se dirigeait vers la rue Axou, où ils allaient être massacrés, simplement parce qu'il avait prêté son bras au père Rouchouze qui défaillait. Et ce petit abbé Seigneuret, je sais que beaucoup espèrent que sa cause soit remise sur le devant et qu'elle aboutisse. Oui, tous méritent également, hors de toute considération politique, d'être considérés comme d'authentiques martyrs. Quels sont les derniers mots de l'abbé Seigneuret, qui va mourir sous les coups de baïonnette après avoir été littéralement assommé, battu? Je pardonne à mes bourreaux. Le martyr chrétien pardonne, il donne sa vie pour le salut de ses frères. Je voudrais attirer votre attention sur une anecdote que je trouve spécialement belle. Parmi ceux qui s'acharnent sur l'abbé Seigneuret et sur les autres prêtres, il y a une femme. Une femme déguisée en homme qui se fait appeler la capitaine Pigère. Cette femme, qui a 37 ans, est issue d'une famille de la bonne bourgeoisie de la région lyonnaise. À l'origine, elle est catholique. Et elle va, quand elle a une 20aine d'années, abandonner la foi, abandonner l'Église, entrer en maçonnerie et passer un pacte avec le diable, comme elle le reconnaîtra elle-même. Et elle va, à partir de ce moment-là, devenir littéralement enragée. Mais en même temps, c'est tout l'étonnant de la chose, cette fille qui a passé un pacte avec le diable continue à prier la Sainte Vierge. À tel point qu'un jour, un de ses camarades va s'acharner sur une statue de Notre-Dame. Félicité Pigère va se précipiter sur elle, sur lui, et le frapper violemment en lui disant « Je t'interdis de toucher à Marie ». C'est ce qui va la sauver. Par provocation, elle s'est rendue à Ars, par l'abbé Vianney, qui lui dit « Ma fille, vous ferez énormément de mal, plus même que tout ce que vous pouvez imaginer. Mais vous vous convertirez, car jamais la Sainte Vierge ne permettra que vous vous perdiez. » Félicité Pigère quitte le confessionnal en disant « Il est bien rigolo ce curé, ça risque rien. » C'est elle qui, en mai 1871, va s'acharner sur les martyrs. C'est elle qui va abattre Monseigneur Darbois, l'archevêque, en disant « Mais il est blindé celui-là. » C'est elle qui va s'acharner sur le père Houchouze. C'est elle qui va s'acharner sur l'abbé Seigneuret. C'est elle qui va s'acharner sur les jésuites. Et il va se passer quelque chose de tout à fait étonnant. « Je pardonne à mes bourreaux, dit l'abbé Seigneuret, qui résume l'opinion de tous ses camarades de supplice. Félicité Pigère est arrêtée. Elle est persuadée qu'elle va être condamnée à mort, elle le mérite. Elle le dit d'ailleurs en pleurant à la religieuse qui s'occupe de la prison où elle se trouve. « Je suis perdue. » Vous vous rendez compte, j'ai tué 13 prêtres. Et elle va lire les sermons d'un des jésuites pour lequel elle s'était pris d'une haine spéciale. Et elle va être tellement, tellement bouleversée par ces sermons qu'elle va se convertir. Elle lui avait dit, « Mais vous y croyez vraiment ?» Ces bêtises-là, elle lui avait dit, « Oh oui, j'y crois vraiment. Et si vous allez au ciel, est-ce que vous reviendrez me chercher ?»« Oui, je reviendrai vous chercher. » Elle sera condamnée simplement à 10 ans de prison, dont elle ne fera qu'une partie. Elle ne quittera jamais la prison parce qu'elle demandera à entrer comme religieuse dans la communauté qui s'occupe des prisonnières. Elle mourra en odeur de sainteté en 1893. Je pardonne à mes bourreaux, et quelquefois cela va même plus loin. Le martyr sauve ses bourreaux et leur ouvre la porte du ciel. Tout cela, c'est vrai de tous les martyrs. Les victimes de l'islamisme, tels le père Hamel égorgé à l'autel, ces ouvriers coptes qui vont être béatifiés, dont les bourreaux filmés, l'abominable assassinat motivé par le refus d'abjurer. Les enfants chrétiens d'Irak, crucifiés simplement parce qu'ils étaient chrétiens par l'État islamique, sont morts pour le Christ, in odium fidei. D'autres, dans l'histoire récente, ont été victimes du nazisme ou des persécutions communistes en Europe de l'Est. Certains étaient orthodoxes, d'autres protestants, ce qui fait que dans l'absolu, l'Église ne pourrait pas reconnaître leur martyr. Mais on laissera au juste juge, celui qui sonde les reins et les cœurs, le soin de reconnaître les siens, tout en ayant la certitude qu'ils sont innombrables, ceux qui, inscrits au calendrier ou connus de Dieu seul, suivent l'agneau jour et nuit après avoir lavé leur tunique dans son sang. Car il y aura des martyrs jusqu'à la fin des temps, même si, comme l'a annoncé le Christ, viendra un temps où la charité se refroidira, de sorte qu'il demandait si, lorsque le Fils de l'homme reviendra, il restera encore de la foi sur la terre, il en restera encore suffisamment pour faire des martyrs.
Merci beaucoup, Anne Bernet, pour cette belle fresque qui nous fait, par le martyr, parcourir l'existence chrétienne à travers le temps jusqu'à aujourd'hui, puisque le 11 mai dernier, si je ne m'abuse, l'Église a déclaré la reconnaissance des martyrs libyens coptes morts en 2015. Coptes, donc non catholiques, mais orthodoxes. On voit ainsi que le martyr sert à une réconciliation des Églises, non pas par des débats théologiques, mais précisément dans la façon de vivre cette vie avec le Christ, dans le don de sa propre vie. Vous nous avez déroulé la fresque des origines jusqu'à nos jours, ce qui nous permet de dire que oui, techniquement, le martyr sait d'aller jusqu'à la mort, et souvent dans des conditions terribles. Mais vous avez mis en évidence ce qui est essentiel pour que cette mort ait quelque valeur, et ça nous concerne, c'est une vie face à Dieu, dans une relation intime de confiance. C'est aussi une charité à l'égard du prochain, pour son salut. Le martyr nous invite donc à poser ce regard lucide sur l'autre, de vouloir son bien éternel, même si on sait que c'est lui qui nous tue. Et c'est là que la notion de martyr et celle du pardon s'unissent magnifiquement. Alors, initialement, cette conférence devait se faire durant la Semaine Sainte, autour de la passion que le Christ a soufferte pour nous, mais elle se retrouve à être finalement juste avant la Pentecôte. Et c'est aussi beau, car vous nous avez rappelé la dimension de témoignage. Et ce témoignage n'est pas ce qu'on pourrait croire, puisque c'est au-delà des mots. C'est avant tout, comme vous l'avez rappelé, cette vie cachée qui se manifeste dans des événements qui arrivent selon des concours de circonstances tout à fait mystérieux et à toutes les époques. Le martyr nous renvoie à notre quotidien, puisque ce sont nos voisins, nos proches, et donc nous-mêmes, potentiellement, qui sommes les potentiels coupables ou les potentiels martyrs. Cela nous invite à la vigilance et à voir notre vie quotidienne comme lieu de constance, de témoignage et de lutte contre le péché dans toutes les petites choses. Et comme cette conférence est aussi sous le signe de la paix, je vais ouvrir cette phase de questions d'une façon qui paraît un peu provocante. Est-ce que les martyrs contribuent vraiment à établir la paix ou au contraire, leur radicalité n'est pas plutôt gênante pour pouvoir constituer un vivre ensemble?
Toute la question, mon frère, est de se demander ce qu'est la paix pour un chrétien. Je ne suis pas venu donner la paix comme le monde la donne. N'est-ce pas ce que dit le Christ? Je suis venu mettre le glaive au sein même des familles. On lèvera le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille, la bru contre la belle-mère. Je ne suis pas venu donner la paix comme le monde la donne. Il n'est pas question dans cette paix chrétienne d'une espèce de consensus qui ferait que toutes les vérités seraient égales. La vérité chrétienne est une vérité qui s'impose parce qu'elle est la seule. Je suis la voie, la vérité, la vie. Et à partir du moment où le chrétien admet que le Christ est la voie, la vérité, la vie, il ne peut pas discuter, je pense, avec un peu d'amusement et un peu d'inquiétude à mes jeunes amis séminaristes qui, dans son séminaire il y a quelques semaines, entendant un professeur de dogmatique lui dire « Il y a votre vérité, il y a ma vérité, de nos vérités » avant de sortir une troisième conciliatrice, elle lui a répondu « Non, mon père, il n'y a qu'une seule vérité, celle de notre Seigneur. » Je lui dis « Mon petit, continuez comme ça, vous allez avoir des ennuis. » Mais en même temps, je pensais « Mon cher enfant, vous avez parfaitement raison, et c'est beau d'avoir votre âge, d'avoir le courage de le dire. » Mais la paix du Christ, c'est la paix de Dieu. C'est une paix qui s'établit sur la vérité, sur l'amour, sur la charité, et pas sur une négation de tout ce qui n'est pas justement cette vérité. Alors bien entendu, les martyrs auraient très bien pu essayer de chercher ce consensus. Prenez le cas, par exemple, des martyrs de la Révolution, par exemple, des prêtres martyrs qui auraient pu, dans l'absolu, accepter de prêter le serment constitutionnel jugé schismatique par Rome, et qui auraient sauvé leur vie, et qui ne l'ont pas fait. Je pense notamment aux martyrs de ma 14 prêtres martyrs de ma ville de Laval, qui étaient tous des prêtres âgés. Parmi eux, il y en avait un qui est l'abbé Ambroise, qui était un ancien janséniste, qui a même un moment été suspend à Divinis en raison de ses opinions jansénistes. Et le tribunal lui dit « Mais toi, on te connaît bien, t'es pas comme eux. Logiquement, t'aurais dû le prêter, le serment. Par conséquent, prête-le, on oublie-tu, on te relâche. » Et l'abbé Ambroise refuse en disant « Non, je reste fidèle à l'Église, je regrette mes positions jansénistes, je reste entièrement fidèle à la foi catholique, je ne prêterai pas le serment, tuez-moi si vous le voulez. » Alors évidemment, l'attitude consensuelle, l'attitude pacificatrice, le vivre ensemble, aurait probablement demandé de chercher en effet un accord. Mais ce sont ces mêmes martyrs de Laval qui, reconnaissant parmi les juges qui les envoient à l'échafaud pour certains de leurs anciens vicaires qui, eux, ont quitté le sacerdoce, vont dire qu'ils leur pardonnent, vont dire qu'ils souhaitent justement qu'ils se réconcilient avec l'Église et qu'ils ne meurent pas dans leur péché. Tout le martyre est là, c'est une paix qui n'est pas la paix telle que ce monde la donne, c'est une paix plus haute. Et c'est en cela d'ailleurs que le christianisme ne cessera jamais de déranger parce qu'il tourne le regard vers des vérités qui dépassent les petits arrangements mondains.
Merci beaucoup déjà pour cette première réponse. Et j'en profite pour me tourner vers vous qui écoutez et vous dire que vous pouvez bien sûr poser à présent toutes vos questions.
Précisément ce qui est, pour ainsi dire, inhumain dans le christianisme. Nous sommes naturellement portés à la vengeance, surtout si nous pensons que notre cause est juste, qu'après tout, on aurait parfaitement le droit d'en tirer justice. Toute la grandeur du christianisme est justement d'imposer quelque chose qui est proprement inhumain, proprement insupportable. Et vous savez, c'est Saint Paul, me semble-t-il, qui dit « Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire, s'il a faim, donne-lui à manger, ainsi tu accumuleras des charbons ardents sur sa tête. » Il ne s'agit pas d'accumuler des charbons ardents sur sa tête pour qu'il grille vif, ça peut être tentant, mais ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est que ces charbons ardents réchauffent son âme et en fassent à son tour un frère dans la foi qui mérite le salut. Mais vous savez, je pense avec... Je me souviens d'une conversation quand je préparais la biographie du cardinal Van Thuan, une conversation avec un pharmacien vietnamien qui était installé en France depuis des années et qui avait servi dans les années 70, quand il était très jeune, dans les milices catholiques. Et il me disait, on ne faisait pas de prisonniers. Et non seulement on ne faisait pas de prisonniers, mais étant donné ce que les communistes faisaient, on était content de leur rendre l'appareil. Je me disais, quelquefois, il y avait ma moitié chrétienne, enfin ma partie chrétienne, il y avait quelque chose de schizophrénique. On n'imagine pas ce que c'est nos 2000 ans de christianisme par rapport à des gens qui n'ont que 150 ou 200 ans de christianisme. Mon moi catholique disait, tiens, c'est affreux ce que tu fais. Pourquoi fais-tu ça? Et sa moitié vietnamienne, son hérédité païenne, regardait sa moitié catholique et lui disait « Pourquoi, Joseph ? Pourquoi ?» C'est vrai qu'humainement parlant, on a envie de tuer. Mais le cardinal Van Thuan lui-même racontait que quand il avait 16 ou 17 ans, qu'il était séminariste, c'était une vocation qui était très précoce, il avait 8 ou 10 ans quand il avait entendu l'appel de Dieu. Et à 16 ans, l'aîné de ses oncles et son cousin qui a le même âge que lui sont arrêtés par les communistes et exécutés, mais ils n'ont pas été fusillés, comme on va le leur dire. En réalité, le père et le fils ont été enterrés vivants. Et lorsque le cardinal, le jeune Thuan l'apprend, il est tellement bouleversé, encore son oncle, il pourrait comprendre, étant donné les engagements politiques de sa famille, il pourrait comprendre que son oncle est un adulte, on lui ait fait payer ses engagements politiques. Mais son cousin de 16 ans, même âge que lui, pour lui, c'est absolument épouvantable. Et il se dit qu'il va quitter le séminaire, parce que maintenant c'est lui l'aîné de la famille, que donc il faut que quelqu'un reprenne le flambeau, qu'il venge les morts. Et comme il le dira plus tard, pendant des mois et des mois, j'étais bouleversé, je me dis, tu ne veux plus être prêtre, tu veux vraiment quitter le séminaire. Et il disait, je ne pouvais plus réciter le Notre Père. Je ne pouvais plus réciter le Notre Père à cause du pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que c'est absolument intolérable. Et il dit un jour, j'étais en prière à la chapelle, parce que je m'accrochais à ce que je pouvais, je m'accrochais à la Sainte Vierge. Il disait, à 17 ans, j'aurais jamais dit que c'était une locution intérieure, que le Seigneur s'adressait à moi. Il disait, j'ai nettement entendu une voix qui me disait, et cette voix était celle de Jésus, François, chez moi, le pardon. Ce n'est pas une option. C'est exactement ça, le pardon, ce n'est pas une option. Dit comme ça, par rapport à certaines choses, vous vous dites, c'est intolérable. Personne ne peut résister à ça. Je pense toujours à cet épisode de la Révolution en avril 1793 dans le Maine-et-Loire, au début de la guerre de Vendée, où les troupes républicaines se sont déjà livrées à un certain nombre d'abominations, notamment dans un village Beaugé où ils ont massacré toute la population, y compris les femmes et les enfants. Et le surlendemain, ces troupes sont vaincues dans une bataille à Chemillé. Il y a beaucoup de prisonniers. Et très logiquement, ce sont des assassins de femmes et d'enfants. Logiquement, ils ne relèvent même pas du droit de la guerre. Il est quasiment légitime de les supprimer. Ils se sont mis eux-mêmes hors le droit de la guerre. Et on va chercher l'un des généraux, le marquis d'Elbé, on lui dit « ils veulent massacrer les prisonniers ». Le marquis d'Elbé se rend sur place, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Oui, oui, je vous comprends. En fait, c'est tout à fait compréhensible, ces gens sont abominables, ils ne méritent pas de vivre. Mais avant d'en arriver là, je voudrais que nous disions à notre Père ensemble. Il s'agenouille, les autres s'agenouillent, commence à réciter de notre Père, et quand il arrive à pardonner-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, il se relève, il les regarde et dit « Menteur. Menteur qui osait mentir en face à Dieu. » Il quitte la grange en disant « Mais maintenant, tuez-les si vous l'osez. » Les prisonniers sont épargnés. D'un point de vue humain, c'est quasiment incompréhensible. D'ailleurs, il faut noter que 6 mois plus tard, le marquis d'Elbé tombera aux mains des républicains alors qu'il est grièvement blessé, quasiment mourant. Ça ne les empêchera pas de le fusiller dans un fauteuil parce qu'il ne tient plus debout. Mais je ne pense pas que même à cet instant-là, il ait éprouvé le moindre regret d'avoir rappelé que la parole de Dieu, c'était pardonnez-nous comme nous pardonnons. Mais oui, le pardon est quelque chose de franchement inhumain. Aucune autre religion ne connaît le pardon parce que d'un point de vue humain, c'est quelque chose qui ne tient pas la route. C'est même parfois, j'allais dire, d'un point de vue militaire, une stupidité. Il y a des gens qui ne méritent pas d'être épargnés. Il y a des gens qui ne méritent pas qu'on ait pitié d'eux. Et le Christ dit exactement le contraire. Pardonnez-leur, parce qu'au fond, que savez-vous si leur rachat n'est pas possible ? C'est quelque chose que nous perdons probablement de vue, c'est que chaque fois que quelqu'un se damne, cette âme qui se perd, c'est une négation, une insulte faite à la mort du Christ et à sa passion. Par conséquent, le rôle d'un chrétien, c'est d'empêcher que ces âmes se perdent, celles d'un ennemi comme les autres. Par conséquent, il faut impérativement pardonner, même si c'est totalement insupportable, même si c'est quelque chose qui va vous prendre des mois, des années, une vie tout entière, pour simplement arriver, en effet, à ce qui dépasse les possibilités humaines. Ce n'est pas, il ne faut pas s'imaginer que c'est un exercice de volonté, on ne pardonne pas soi-même, c'est Dieu qui vous donne la force de pardonner, parce que nous savons très bien que le pardon dépasse les capacités humaines, c'est pourquoi le christianisme est la seule religion qu'il prône.
Je relaie la question, est-ce que, au final, on peut dire que c'est en se considérant comme une victime que le martyr permet de dépasser l'agressivité pour ne s'en remettre qu'à Dieu ?
Je ne suis pas sûre, parce que nous avons à la fois le fait d'abord que je ne pense pas que le martyr se vive comme une victime. Ou alors il faut le prendre au sens véritablement de la victime qui est immolée pour le salut du monde. Pourquoi, en effet, le martyr est identifié au Christ. Mais ce statut de victime, il faut le dépasser en effet, parce que si vous continuez à considérer que le martyr est une victime mériterait d'être vengée. Or, ce n'est pas le but. Il faut justement reconstruire au-delà. C'est ce qu'il aurait fallu faire comprendre à ces jeunes gens qui, l'an dernier, il y a 2 ans maintenant, s'en sont pris à cette procession à l'honneur des martyrs de la commune, parce qu'ils n'ont pas compris. Ils ont vu cela comme une provocation, justement, comme une volonté de porter atteinte à la mémoire de leurs propres victimes. Or, j'ai envie de dire, on n'est pas là pour se jeter des cadavres à la figure mutuellement. C'est pas du tout nécessaire. Si on regarde les choses en face, il est vrai que la commune a perdu un nombre effrayant d'hommes dans cette affaire, d'hommes, de femmes, d'enfants, et qu'il aurait simplement fallu leur dire ce n'est pas l'Église qui a envoyé ces gens à la mort. L'Église, au contraire, elle a essayé d'en sauver le plus grand nombre. Mais nous ne sommes pas dans une histoire de calcul. Eh bien, vous avez plus de morts que moi, eh bien moi, je vais vous compter les cadavres, il y en a 10 fois plus chez moi que chez vous. Ce n'est absolument pas le but. Dans tous les cas, il faut dépasser cette espèce de logique et dire, quels qu'aient pu être les torts des uns et des autres, Dieu les pardonne. Et si Dieu les pardonne, qui sommes-nous pour ne pas les pardonner ?
Juste une petite question, ce ne sera pas trop compliqué, je pense, mais dans votre exposé, j'ai cru entendre deux choses, peut-être en apparence paradoxale. D'une part, vous disiez que le Christ dit que dans son vie, on est persécuté, il faut fuir, et d'autre part, avec l'exemple tiré de Saint-Martin, vous disiez qu'il faut aussi s'exposer au martyr dans certaines circonstances. Est-ce que vous pouvez juste
C'est tout le paradoxe sur lequel l'Église n'a cessé de réfléchir et de travailler. Le Christ effectivement dit, si l'on vous persécute dans une ville, passez dans une autre. Mais lui-même va tout de même monter à Jérusalem, comme lui disent les disciples, mais si tu sais ce qui t'attend là-bas, pourquoi y vas-tu ? Bien, il y va parce que la volonté de son Père doit être faite. C'est un peu la même chose vis-à-vis du martyr. Il y a le fait qu'on ne doit pas, en effet, aller au-devant du martyr parce que ce serait préjugé de ses propres forces. Si Dieu ne vous appelle pas au martyr, n'y courez pas de vous-même, c'est stupide. Et le fait que vous devez également respecter le persécuteur en ne lui mettant pas un crime sur le dos. Donc, dans toute la mesure du possible, ne courez pas au-devant du martyr. Et par ailleurs, cette double nécessité qui peut être à la fois de témoigner de sa foi, quoi qu'il arrive, de ne pas paraître être un lâche, de ne pas paraître avoir peur. Donc, si on vous demande de rendre témoignage, vous en rendez témoignage, quel que soit le prix éventuel à payer. Et puis, d'autre part, toute cette question, quel est le prix ? Quel est le prix d'une arme ? Si vous parliez de Saint-Martin, si Saint-Martin s'expose aux martyrs. Bon, il est vrai qu'il appartient à une génération où le fait de ne plus pouvoir mourir martyr est déjà une sorte de frustration assez insupportable. Mais il ne le cherche pas gratuitement. Il le cherche pour prouver son amour du Christ, mais aussi pour lui ramener des âmes. Donc tout l'équilibre est là. À quel moment faut-il accepter de risquer le martyr? Qu'est-ce qui mérite de risquer le martyr? Est-ce que le témoignage est nécessaire pour se sauver soi-même et pour sauver les autres? Si Dieu vous met dans la situation de risquer le martyr parce que vous témoignez du Christ, eh bien, vous ne devez pas vous y dérober, mais n'allez pas vous y mettre tout seul. Alors, je pense au père de Picpus, et à bien d'autres d'ailleurs, dès que les choses commencent à mal tourner, et à la fin de l'hiver 1871, on va éloigner un certain nombre de religieux, de religieuses, pour éviter justement des drames. Mais il faut bien qu'il y ait des gens qui restent. Ceux qui restent cherchent-ils le martyr? Nullement. Peut-on dire des missionnaires des missions étrangères qui partaient en Extrême-Orient avec la certitude de ne pas en revenir, qu'ils cherchaient le martyr? Oui et non. Ils cherchaient avant tout le salut des âmes. Je pense à une figure qui est assez méconnue, qui est celle du premier évêque, enfin du second évêque de Corée, Monseigneur Berneux. Monseigneur Berneux qui est mort martyr en Corée et qui, lorsqu'il quitte son village de la Sarthe, où il était jeune vicaire, il laisse simplement un mot à son curé en lui disant « Monsieur le curé, je m'en vais, je ne vous en ai pas parlé, je rejoins les missions étrangères, j'espère le martyr, mais je ne l'espère pas par gloriole, je ne l'espère même pas pour le salut de ces peuples auxquels je vais. » Nous sommes au lendemain de la Révolution et la Sarthe est un des départements les plus durement déchristianisés de France. « Je pars, monsieur le curé, je pars pour qu'ici, si je meurs pour le Christ, le mérite de ma mort convertisse ceux que j'en ai pu convertir en étant vicaire dans la paroisse. » Je pense que cela résume assez bien les motivations pour lesquelles il y a cette paradoxale demande de l'Église d'être à la fois toujours prêt à accepter le martyr et de ne pas courir au devant du martyr. Il y a notamment un martyr africain au IIIe siècle dont personne ne connaît le nom, il s'appelle Mapalikous. Et Mapalikous, très sagement, il prend la fuite lorsque la persécution éclate parce qu'il a peur d'apostasier, il a peur d'être faible. Mais la persécution le rejoint, il est arrêté dans le village où il a trouvé refuge et il n'essaye pas de fuir une seconde fois. Et il va mourir brûlé vif parce qu'il comprend que Dieu l'appelle au martyr, donc il ne se dérobe pas. C'est d'ailleurs également ce qui arrive avec saint Polycarpe au 1er ou au 2e siècle. Saint Polycarpe, évêque de Smyrne, qui va lui aussi, il a plus de 90 ans, on va lui dire « Mais sauve ta vie, tu n'as aucune raison. » Il va répondre « Voilà 90 ans que je sers le Christ, il ne m'a jamais, au grand jamais, manqué. Pourquoi est-ce qu'à l'âge que j'ai, j'irai le trahir, lui qui ne m'a jamais trahi ?» Et pourtant, on va proposer à Polycarpe 3, 4, 5 fois des moyens de s'évader. Certains parleront de suicide. Je pense à ce sénateur romain qui s'appelle Apollinarius, qui est chrétien, qui est déféré sous Marc Aurèle devant le préfet de la ville, qui est son ami, ils se connaissent depuis l'enfance. Et au bout d'un moment, Apollinarius va exposer les arguments chrétiens. Et l'autre le regarde d'un air désespéré et lui dit « Mais mon pauvre ami, qu'est-ce que tu me racontes ? Est-ce que tu es en train de me dire que tu aimes la mort ?» Et Apollinarius se regarde et dit « Tu n'as rien compris. Je n'aime pas la mort. J'aime la vie, mais la vraie. » C'est là tout le langage de sourd entre le christianisme et le monde. Il faut savoir ce qu'est la vérité, ce qu'est la vie, ce qu'est le prix des âmes, et simplement accepter ce que Dieu veut pour chacun. Je pense que c'est le maître mot. Il n'y a pas de provocation, il y a simplement la nécessité de rendre témoignage. Il vous est demandé de rendre témoignage, vous rendez témoignage. Voilà tout.
Un peu comme les moines de Tibérine.
Exactement comme les moines de Tibérine, qui eux aussi auraient pu partir, qu'on a d'ailleurs encouragé à partir, mais qui restent parce que leur simple présence est en effet un témoignage.
Mais vous ne pouvez pas parler des ponts de l'île Malade en Vendée.
Les pontons de Rochefort.
Les pontons de Rochefort, les martyrs de Rochefort. Alors là, nous avons encore un autre drame, qui est celui essentiellement de prêtres martyrs. Je vous parlais tout à l'heure des martyrs de Laval. Mais nous avons le même problème, d'une certaine manière, avec ces prêtres qui, à l'origine, auraient dû être simplement, c'est une façon de parler, simplement déportés vers l'Espagne. Dans le cas des pontons de Rochefort, c'est simplement le blocus anglais sur la côte atlantique va empêcher les navires d'appareiller. Ils vont donc rester bloqués dans le port de Rochefort, où, en effet, ils vont mourir de maladies, de mauvais traitements. Les conditions de vie sur les pontons de Rochefort, c'est digne des camps de concentration nazis. Hein, ça passe l'entendement. Mais je pense à l'un de ces prêtres, notamment un jeune prêtre du diocèse de Limoges, qui va être assassiné sur le pont du navire en présence de tous les prisonniers, simplement parce qu'il a eu le malheur avec quelques autres de vouloir réciter à haute voix son bréviaire qu'il sait par cœur. Là encore, nous avons véritablement un témoignage, à savoir qu'en tant que prêtre, il continue à évangéliser. Mais là encore, ce sont des gens qui auraient très bien pu ne pas en arriver là. Il est sorti il y a quelques années un livre que, bon, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'aurais rejeté cet ouvrage avec horreur en disant quel lâche, quelle abomination, quelle atrocité, qui s'appelle « Noces révolutionnaires ». Il s'agit justement des prêtres qui, eux, ont apostasié, qui ont accepté de rendre leur lettre de prêtrise et pour certains de se marier, et qui, au moment du concordat, vont écrire aux autorités romaines en essayant de justifier leur attitude. Il y en a certains qui disent « Je serais bien revenu, mais vous comprenez, je suis marié, j'ai 5 enfants, ma femme ne sait même pas que j'étais prêtre, alors moi personnellement je serais bien revenu, mais je ne vais pas abandonner ma famille. » Et puis il y en a d'autres qui disent, c'est assez, il y en a un qui dit « Oui, j'ai rendu mes lettres de prêtrise, j'ai épousé ma servante, mais réfléchissez que j'avais 35 ans et qu'elle en avait 80. Vous pensez bien que nous n'avons rien fait de mal. » Il y en a encore un autre qui dit « Mais je sais bien que j'ai été lâche, mais mes parents étaient très âgés. Je me suis dit que si j'acceptais l'exil ou la clandestinité, papa et maman allaient rester dans une misère noire et que je ne pouvais pas partir. » Tant et si bien qu'en lisant ça, je me disais « Mais qui va leur jeter la première pierre ?» En fait, est-ce que très sincèrement, mise à leur place, bon, c'est peut-être trop humain, c'est facile de dire « Il y en a qui furent héroïques. » Oui, il y en a qui furent héroïques. Puis il y en a d'autres qui se disent simplement « Mais comment vais-je faire ?» Ça peut tenir quelquefois à très peu de choses, vous savez, au simple fait que le serment constitutionnel, si vous ne le prêtiez pas, vous aviez 2 mois pour quitter votre presbytère, et non seulement votre presbytère, mais votre paroisse et votre département. Autrement dit, vous vous retrouvez du jour au lendemain dans un endroit que vous ne connaissiez pas, privé de vos amis, de vos relations, de votre famille, de tous ceux qui pouvaient vous aider à vous en sortir, sans toit sur votre tête. Il fallait de l'héroïsme pour l'accepter. Et c'est tout ce qui fait justement, je me souviens d'une conversation que j'avais eue il y a quelques années avec le Père Couronne, où on parlait justement de ce qu'était l'héroïcité des vertus. Eh bien, l'héroïcité des vertus, c'est effectivement de dépasser les craintes humaines, d'accepter un certain nombre de choses en disant « Eh bien, c'est comme ça, c'est pas autrement. À vue humaine, c'est épouvantablement difficile, je suis mort de peur, mais je fais suffisamment confiance à la providence divine pour savoir que quoi qu'il arrive, on s'en sortira, qu'elle ne me laissera pas abandonner. » C'est une formule de Lacordaire que j'aime bien. « Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais j'ai la certitude que la providence divine sera levée bien avant le soleil. » Je pense que c'est une certitude que les martyrs ont toujours eu.
Sur ces paroles inspirantes, je vous remercie une dernière fois au nom de Réseau Picpus et de la Congrégation des Sacrés-Cœurs, Madame Bernet, de nous avoir fait ce magnifique topo sur les martyrs, qui, à travers des exemples qui pourraient paraître isolés dans l'histoire, des événements historiques, nous livre une véritable exégèse de ce que doit être la vie chrétienne. Donc nous avons parlé du pardon des offenses, mais aussi de ce qu'on ne cesse de nous répéter, et particulièrement avec le pape François, de cette invitation à devenir disciple missionnaire, avec un témoignage qui n'est pas forcément toujours celui qu'on croit, et qui s'ancre en profondeur dans cet amour de Dieu et du prochain. Et le tout baigné dans cette confiance surnaturelle que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire le fait que, en tant que chrétien, nous ne vivons pas par nous-mêmes, mais par la vie du Christ en nous, et cela nous fait aller bien au-delà de ce que nous pouvons faire avec nos petites personnes. Encore une dernière fois, merci. Merci à vous qui nous avez écoutés, qui avez été présents, et n'hésitez pas à écouter les autres enregistrements de Réseau Picpus, Lire aux éclats, sur la page dédiée en tapant Réseau Picpus. Et si vous êtes à Paris, n'hésitez pas à venir à Picpus, au 35 rue de Picpus, à la chapelle où on vénère Notre-Dame de Paix, avec des propositions spirituelles et les acteurs du réseau. Et pour terminer cette belle soirée, nous nous tournons vers les martyrs, bienheureux Ladislas, Polycarpe, Marcelin et Frézal qui viennent d'être béatifiés.
Podcast Lire aux éclats.
Fais-toi une place dans ce monde. Poursuis la paix. Recherche-la.
Lire aux éclats.